Je vous propose pour terminer cette année 2025 des extraits de mes différentes émissions que vous avez pu écouter sur l'antenne de Radio Galère tous les deuxièmes lundis de chaque mois entre 18h et 19h. Vous pouvez les réécouter en allant sur le site de la radio dans la rubrique culturelle, l'émission Voix Marseillaise. On commence ce best-of en écoutant Mathias Benachour, guide et spécialiste de l'histoire de la prostitution marseillaise, nous parler du quartier réservé. Il se situait du côté de la mairie centrale, sur le Vieux-Port, entre la fin du 19e siècle et l'année 1943, date de sa destruction.
C'est une douzaine de rues à peu près. Et il est créé en 1878 par un décret municipal qui délimite un quartier dédié exclusivement aux activités de prostitution, situé entre les rues de la Reynarde à l'est, la rue de la Loge et la rue Lancerie au sud, la rue du Radeau à l'ouest et la rue Caisserie au nord. Donc ces quatre rues vont... englobe une dizaine d'autres qui font du quartier réservé le point culminant de la prostitution à Marseille. L'idée de la municipalité, c'était de contrôler les activités de prostitution et de les contenir en un seul lieu. Il faut savoir que la prostitution à Marseille, dès le Moyen-Âge, en fait, on en trouve un peu de partout dans la ville et ça crée énormément de problèmes. Il n'y a pas vraiment de loi qui interdise les activités de prostitution. On parle de municipalisation des activités à l'époque du Moyen-Âge. À l'époque moderne, c'est beaucoup plus répressif. À l'époque de Louis XIV, on enferme carrément les femmes. Et au 19e siècle, enfin 18e et 19e siècle, une espèce de libéralisation des mœurs et une forme d'industrialisation du sexe. Aussi qui font de Marseille, qui font que Marseille devient un espace où on a de la prostitution vraiment dans tous les quartiers, à l'Opéra, à Belzunce, à Noailles, sur la Canebière, évidemment ici dans le Panier et ce qu'était l'ancien quartier Saint-Jean. Et pour contenir tout ça, la municipalité décide de créer un registre pour y inscrire les filles et ce quartier-là.
Ici, c'est un peu le début de la prostitution moderne, un peu, c'est-à-dire avec le fait de contrôler, de régenter tout ça, on passe à une autre prostitution à Marseille.
Alors, on a déjà commencé la réglementation prostitutionnelle en France à partir de 1804, sous Napoléon. C'est la période qu'on appelle le réglementarisme, qui est connu sous le nom de système français à l'international. C'est un système qui a été reproduit dans de nombreux pays de France, d'Europe, dans de nombreux pays d'Europe et d'ailleurs. Et cette réglementation... qui a un aspect, une dimension nationale, qui vise à vraiment créer nationalement un système pour gérer, contrôler les activités de prostitution. Elle se décline ensuite au niveau municipal et préfectoral par d'autres lois qui peuvent être ajoutées. Et cette particularité du quartier réservé, elle n'est pas propre à toutes les villes de France. Elle appartient à Marseille, d'autres villes comme Toulon. Il me semble que du côté de la Bretagne aussi, on a des quartiers réservés ci et là. Et donc, on va appuyer par des réglementations municipales un petit peu plus pour contrôler la prostitution au cas par cas.
Alors, il y avait le service des mœurs pour ça. Mmh. Et également un médecin qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelait Hippolyte Mireur. Alors quel était le rôle et du service et de ce fameux médecin ?
Docteur Hippolyte Mireur, c'est un hygiéniste marseillais qui était le chef, le médecin du service qui contrôlait les femmes. Alors ça pouvait être une fois par mois, ça pouvait être deux fois par mois, ça pouvait être une fois par semaine. Les réglementations ont vachement changé. Parfois les visites médicales étaient payantes, d'autres fois elles ne l'étaient pas. Ça changeait en fonction des décennies du 19e siècle. Et le docteur Hippolyte Mireur a joué un rôle important et il est une source hyper importante dans ce qu'on sait sur la prostitution à Marseille au 19e siècle et même avant, puisqu'il a écrit deux ouvrages, un sur la syphilis et un plus général sur la prostitution à Marseille. Il a fait des statistiques, il reprend une partie de l'histoire de la prostitution à Marseille et il nous offre des témoignages de son époque, avec le regard qu'un homme d'un certain âge, avec du pouvoir, peut avoir sur cette activité. On est, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un hygiéniste, donc lui, c'est, voilà, c'est l'idée de l'hygiène, c'est l'idée de préserver la morale, c'est l'idée de contrôler la santé, de préserver la santé des gens. Il va contrôler les femmes, il va inspecter les femmes.
Ces prostituées, elles vivaient dans quel contexte, avec quelle population ici? Est-ce qu'on peut parler un peu déjà de la population?
Le quartier réservé, c'est une partie du quartier Saint-Jean. Quartier Saint-Jean qui a une population italienne assez importante. On est sur un quartier populaire de Marseille. On a tout corps de métier. On a des marins, on a des poissonniers, on a des dockers. On a tout type de métiers qui sont représentés dans ce quartier. Et ces femmes, ces travailleuses du sexe, moi j'ai décidé dans mon mémoire de les appeler travailleuses du sexe plutôt que prostituées, parce qu'il y a cette notion de choix qu'il faut mettre en avant, même si c'est un débat qui est encore ouvert aujourd'hui. Ces travailleuses du sexe, elles vivent aussi, parfois, dans ce quartier.
Elles n'étaient pas obligées de vivre dans ce quartier même, là où elles travaillaient?
Elles y travaillaient, elles n'étaient pas forcément obligées de vivre dans ce quartier. Elles y travaillaient, c'était leur lieu de travail. Mais très tôt, au bout d'une vingtaine d'années, un peu plus, la municipalité fait machine arrière concernant les réglementations de la prostitution. On a remarqué que ce quartier réservé, curiosité internationale, lieu de tous les fantasmes, espace désiré par les marins du monde entier, n'était pas suffisant pour répondre à la demande sexuelle de toutes les personnes qui font appel à ces professionnels. Et au tout début des années 1900, je crois que c'est entre 1905 et 1910, on a les premiers décrets préfectoraux qui autorisent la création de maisons de rendez-vous, des bordels privés, quoi, à l'extérieur du quartier réservé.
Alors que dans le quartier réservé, c'était surtout des hôtels, des chambres.
Des maisons de tolérance, des hôtels meublés, souvent dans les anciennes grandes demeures bourgeoises de Marseille, parce que le quartier réservé de Marseille, c'est... Avant d'être le quartier réservé, c'est le quartier noble de la ville. Donc c'est toute cette noblesse et bourgeoisie marseillaise qui vivait ici. Donc on avait des hôtels particuliers qui pouvaient être assez fabuleux. Et c'est dans ces lieux-là, dans ces anciens lieux un peu de la haute marseillaise, que se sont retrouvées ces activités-là et qui contrastent avec ces petits nids individuels qui parsèment la ville à partir du début des années 1900 et probablement avant, hein, faut pas se leurrer, hein. Même si le quartier réservé est le lieu de la prostitution officielle en 1878, il y en a de partout dans la ville. Il y en a à l'opéra, il y en a de partout.
On dit, enfin je l'ai lu, que la prostitution ici était plus populeuse.
Il a ce côté complètement populaire, il est dans un quartier populaire. On vient ici pour s'encanailler aussi, hein. On n'est pas que au contact des travailleuses du sexe, mais on a aussi des fumeries d'opium, on peut avoir du jeu, on peut avoir, on a des bandes de mafieux qui sont là, les nervis marseillais, hein. C'est l'équivalent des apaches parisiens. Donc on a tout un monde un petit peu, entre guillemets, de la criminalité qui vit ici, parce que certainement que les prestations sexuelles sont très bon marché ici. Ça c'est une donnée qui est très difficile de rencontrer, j'en ai toujours pas trouvé, mais je sais où est-ce que je pourrais en trouver dans les archives. Savoir un petit peu quel est le prix d'une prestation ici dans le quartier réservé, ça peut être très intéressant. Et puis le quartier réservé, comme je l'ai dit, c'est un lieu qui est connu à l'international. Donc c'est un lieu qui attire les marins du monde entier. Quand on est en escale à Marseille, on descend, on prend la rue de la République ou on longe le quai de la Joliette et on vient ici dans le quartier réservé. C'est pas un lieu qui est forcément pour le Marseillais, même s'il y a beaucoup de Marseillais qui peuvent le fréquenter. Le Marseillais qui cherche une prestation sexuelle, même si c'est bon marché, il va essayer de trouver un endroit plus discret. Le Marseillais, il veut pas être vu au contact de toute la populace. Il peut vouloir... On a à la recherche de discrétion. Et ça, c'est une des raisons, il me semble, pour lesquelles les maisons de rendez-vous ont été autorisées à l'extérieur du quartier réservé, parce que le quartier réservé, il est ostentatoire. Et la prostitution, ben, c'est une activité qu'on ne veut pas forcément rendre ostentatoire. On a besoin de discrétion. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. J'ai lu des histoires d'affaires sur, sur la Corniche, sur le cours Lyoteau, sur la rue de Rome. Et on a ces autres types de maisons de tolérance ou de maisons de rendez-vous qui existent et qui sont pour d'autres populations ou en tout cas beaucoup plus discrètes.
Quels étaient les établissements ici emblématiques, connus dans, le, dans ce quartier réservé ?
Alors je vais vous montrer quelque chose qui est assez précieux. Dans le quartier réservé, on est encore une fois, hein, sur un lieu qui est connu à l'international, qui est un véritable espace de tourisme aussi. Et le tourisme sexuel, il se développe vachement à cette époque. Et donc, on publie des ouvrages, des cartes postales qu'on vend aux touristes de passage à Marseille. Ça peut être édité en français et en anglais. Et donc là, je suis en train de vous montrer un petit ouvrage, un petit guide souvenir des touristes et des étrangers qui s'appelle « Le Marseille curieux » qui a été rédigé par un certain Pierre Dagramont qui est un pseudonyme, parce que ce Pierre Dagramont n'existe vraisemblablement pas. Et ce guide souvenir des touristes et des étrangers de Marseille reprend cette histoire du quartier réservé. Il nous propose des images. Pour celles et ceux qui sont curieux de voir ce Marseille curieux, il est consultable à la bibliothèque de l'Alcazar au fonds patrimonial au troisième étage. Et ce qui est vraiment intéressant pour ce Marseille curieux, c'est qu'à la fin, il y a toute une partie qui reprend un à un les lieux. Ici, on a chez Aline, ancienne demeure seigneuriale de la famille de Vintot, et en dernier lieu de monsieur Louis de Vintot, marquis de Penne, seigneur de Bolène et Castellane, conseiller du roi. C'est assez intéressant. On a des typographies et des logos qui sont fantastiques. Rebecca, par exemple, ici, l'ancien hôtel particulier de monsieur Balthazar de Vias, le Théo, au bon plaisir, Clotilde, le Citeria, rue Vintot Maggi, Citeria très connu. C'est vraiment un des...
Alors là, qu'est-ce qu'on y faisait dans ces établissements ? Est-ce que c'était en consommer, en manger, ou est-ce que vraiment les prostituées pouvaient rencontrer leurs futurs clients ?
C'est des hôtels de passe, hein. c'est des maisons de tolérance, donc on se présente à l'entrée, il faut faire attention à ne pas être mineur, hein. On a des cas, et notamment au Citeria, où j'ai trouvé, le Citeria a été fermé pendant quelques jours dans les années 30, parce qu'ils avaient embauché une travailleuse du sexe mineur. Donc, on invite les clients, ils sont invités à boire, à se détendre, on peut manger certainement, ça je sais pas, je l'ai pas trouvé, mais je serais pas du tout étonné qu'on puisse manger à l'intérieur.
Écouter du jazz peut-être ?
Écouter de la musique, bien sûr. Pour ça, on a la littérature qui est un super témoignage, que ce soit André Suarez qui en parle de façon très violente et avec une pointe de racisme.
Lui, il rejette, non ?
Lui, il rejette complètement. Oui, le quartier réservé, c'est une ville dans la ville, le château fort de la grosse luxure qui roule en pente vers le port.
Mais pourquoi vous pensez qu'il a mis les pieds ici et il a été dégoûté ou...
Par curiosité, je pense. Il y a beaucoup d'auteurs marseillais qui sont venus par curiosité, d'artistes de manière générale, qui sont venus jeter un coup d'œil. Comme on peut vouloir aller voir des endroits un peu obscurs. Horace Bertin est passé aussi par ici et il a écrit sur le quartier réservé. Alors il le voyait de façon plutôt positive au début de sa carrière de journaliste. Et à la fin, il avait un tout autre regard sur ce quartier.
Mais qu'est-ce qu'on détestait alors ici ? C'est la saleté, c'est le manque d'hygiène, c'est le mélange des gens ?
Oui, c'est peut-être un tout. C'est peut-être un tout. Ça dépend peut-être de la personne qui regarde ce quartier réservé aussi. Claude Maquet, il voit beaucoup de joie.
Claude Maquet, on peut rappeler que c'est un auteur noir américain qui est venu ici dans les années 20.
Exactement.
Et il a écrit un livre qui s'appelle Bonjo et qui témoigne. Enfin, c'est comme une sorte de documentaire un peu de la vie ici, quoi.
Exactement. Claude Maquet. Nous offre une description et un voyage dans ce quartier réservé, dans ce Marseille des années 20 qui est assez fantastique. Et la dimension musicale de son ouvrage est très intéressante parce qu'on y apprend le jazz, on y apprend le charleston présent à Marseille à ce moment-là. Quand on lit André Suarez qui a écrit Marcillo, qui est un auteur local, il fait une image du quartier réservé qui est assez abominable, où il parle de vacarme, d'orchestre noir, de musique de l'enfer. Et bon, bah, ça
compte. Rejeter le cosmopolitisme, peut-être ?
Oui, certainement. Complètement, même. L'ouvrage Marcillo est un ouvrage très xénophobe. Un genre de c'était mieux avant, André Suarez. On déteste le bâtiment de la Bourse, on déteste ci, on déteste tel monument, c'est un chancre, ça c'est pas beau, c'est pas bien, eux c'est pas cool. Donc voilà.
Pourtant, il a une réputation dans la littérature française et locale assez élevée.
Oui, oui, oui. Mais bon, assez élevé, ça, c'est pas le plus connu des auteurs français non plus, André Suarez. Mais dans ce bouquin, Marcillo, il est particulièrement violent et il dénonce pas mal de choses, quoi. Ou en tout cas, il est vachement critique sur plein de lieux, d'espaces et de types de personnes qu'on a à Marseille. Il a une certaine admiration pour le bâtiment de la mairie.
Il faut dire qu'ici, donc, les Allemands ont sauvegardé, entre guillemets, les monuments historiques. Ils n'ont pas détruit les monuments historiques quand ils ont rasé ce quartier. Ça a été, je crois, négocié par les Français, les autorités municipales et de Vichy, pour qu'on épargne le dynamitage de ces monuments. C'est pour ça qu'on est encore avec l'hôtel de ville, la maison diamantée, l'hôtel de Cambre.
Bah, on est sur tout un complexe aussi de la municipalité. On a une municipalité qui collabore.
Visite du 9e Salon international du tatouage qui s'est tenu à Marseille en avril de cette année. 250 stands et près de 5000 personnes qui s'y sont rendues durant un week-end.
Eh ben, je m'appelle Julie, j'ai 30 ans et ce qui m'a motivée, c'est parce que j'aime bien les tatouages et surtout que j'accompagne mon chéri qui est en train de se faire tatouer avec son tatoueur.
Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire comme motif et il le fait où ?
Alors c'est un motif à la cuisse, c'est du réalisme, donc c'est une tête de mort, c'est la faucheuse, représentant avec le cimetière et une grosse lune en arrière-plan.
Est-ce qu'il a choisi tout seul ou vous l'avez choisi ensemble ?
Il a choisi tout seul. Voilà, moi j'ai approuvé, c'est lui, il fait ce qu'il veut, donc moi je suis.
Qu'est-ce que vous trouvez dans ce type de salon ? Qu'est-ce que vous venez exactement chercher ici ?
Ben, c'est surtout découvrir les arts de chacun, les spécialités de chacun. Ouais, il y a du réalisme, il y a du ornemental, il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est bien.
Et est-ce que vous avez un style que vous aimez particulièrement ?
Non, moi c'est au coup de cœur. Ouais.
Alors est-ce que vous pouvez me parler de vos tatouages ? Qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi ?
Moi j'ai fait un tatouage, un bras, avec des personnages Disney, des fleurs, un chat en réalisme. C'est surtout pour rendre hommage à une personne qui est décédée. Donc ça me tenait à cœur. Après, j'ai fait des petits tatouages aussi pour cette personne. Et
Combien d'années que vous vous intéressez au tatouage ?
J'ai fait mon premier tatouage à 18 ans. Je crois qu'on dit tous que c'est une drogue, on en fait un. Et puis après, il y a le second qui arrive, le troisième, le quatrième. On ne s'arrête plus. Je sais que des grosses séances comme mon compagnon fait, je ne pourrais pas.
Ça va durer combien de temps ?
Là, c'est à peu près, il faut 20 heures, ouais, 20 grosses heures de tatou. Ils ont fait 10-12 heures hier. Là, depuis ce matin, 10 heures, ils y sont encore.
Ce matin, il est allongé ?
Depuis hier aussi. Hier, toute la journée.
Donc, il est allongé pendant tout le week-end, là ?
C'est ça. Mais le tatoueur lui a fait son bras aussi, sur une autre convention à Montpellier. Ils ont mis 33 heures pour tout faire.
Ça paraît incroyable, non ?
Oui, oui.
Ça va, il tient le coup, non ?
Ben, regardez-le, il a l'air, hein ? Oui, ça va.
Il va dormir quand même à la maison, il ne va pas dormir ici.
Non, non, cette nuit je le ramène. Mais là, il a pris un hôtel pour être à côté. Comme ça, moi.
Vous venez de loin ?
Avignon.
Donc vous deux, vous avez la passion du tatouage. Est-ce que c'est un peu ça qui vous a... C'est votre point commun assez important ?
Ça nous rapproche, ouais.
Est-ce que, entre personnes tatouées, on se compare beaucoup ? Est-ce que c'est un milieu un petit peu féroce, entre guillemets ?
Bah, en fait, le milieu ne l'est pas féroce, mais comme les gens ne peuvent pas s'empêcher de l'être, certaines personnes réagissent comme vous le dites. On compare les tatouages, le mien est mieux que le sien, ça c'est pas du vrai tatouage, ça c'est mieux, ça sera mieux dans 20 ans, etc. etc. C'est pas lié du tout à l'approche du tatouage. Ça c'est des personnes, d'une personne à l'autre, c'est changeant. Bien souvent, nous qui avons beaucoup de tatouages, on voit plus les tatouages de nos potes, hein, on fait plus du tout attention. Moi, il y a des choses que je redécouvre, parfois j'avais oublié que j'avais ça sur moi. Il y a des gens qui collectionnent les tatouages. Donc ils veulent des pièces d'artistes différents, comme une collection, ni plus ni moins.
Et vous choisissez comment vos tatouages ? Est-ce que c'est vous qui imaginez ou vous discutez avec l'artiste ? Beaucoup.
Les deux. Moi, j'ai toujours une idée en tête. Par contre, je suis incapable de savoir comment je vais la mettre en forme parce que je n'ai pas du tout la fibre artistique au point de pouvoir créer un dessin moi-même. Moi, je dis au tatoueur, voilà, j'ai cette idée-là, j'aimerais bien pour telle raison. Avec toi, parce que c'est ton style de prédilection, vas-y maintenant, carte blanche sur le thème.
Et en fait, vraiment, les tatoueurs ont chacun leur style comme les artistes peintres ?
Exactement. Alors des styles, il y en a énormément, de plus en plus, parce que les techniques font qu'aujourd'hui, on peut ouvrir sur des styles graphiques qu'on ne pouvait pas faire il y a 100 ans, parce que les machines, le matériel ne le permettaient pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite dans le tatouage. Et aujourd'hui, ce week-end sur le salon, on organise différentes catégories de concours tatouage, et on va du petit tatouage de format A5 jusqu'au corps complet, en réalisme, en graphique, en polynésien, en noir et gris, en couleur, etc. Donc il n'y a plus de limite. Avec l'IA, Elon Musk va nous sortir un robot tatoueur. C'est pas ce qu'on attend, hein, je vous le dis tout de suite. Nous, on a priorité à l'humain parce que le tatouage, c'est aussi un échange entre tatoué et tatoueur, parce que c'est des tranches de vie, parce que c'est des souvenirs à graver, c'est des symboliques importantes sur la famille, sur l'amour ou sur la mort aussi. Hein. Autant de choses qui inspiraient également les peintres. Et quand il n'y a pas la relation, à ce jour en tout cas, hein, en 2025, quand il n'y a pas cette relation d'humain à humain, il ne peut pas y avoir la créativité qui va derrière.
Pour revenir à Marseille, est-ce qu'il y a des bons tatoueurs et est-ce qu'on peut citer un ou deux qui sont vraiment au top niveau ?
Ouais, à Marseille, Bouches-du-Rhône, région PACA, il y a des gros niveaux et ils sont impressionnants depuis quelques années. Nous avons organisé aujourd'hui un concours spécial pour les tatoueurs et tatoueuses de la région PACA. Eux seuls pouvaient s'inscrire, présenter des tatouages cicatrisés. Donc là, c'est sans filet. On a vu, après cicatrisation, le résultat fini. Et là, on ne peut pas tricher. Le niveau est impressionnant. Et si je devais en citer, comme j'ai peur d'en oublier, je vais en citer que deux. Bear Under My Skin, qui est un tatoueur qui a plus de 25 ans de profession à Marseille. Et Fabien Warner à Marignane. Pourquoi ces deux-là ? Parce que Fabien est la jeune génération et c'est lui qui a fait le visuel de l'affiche de notre salon de cette année. Donc je lui rends aussi un petit clin d'œil par rapport à ça. C'est quelqu'un qui est spécialisé en style graphique et réalisme. Et Ber, qui est plutôt son père dans le tatouage, lui est spécialisé en tatouage traditionnel et japonais. Donc ce sont des styles complètement opposés, mais avec les mêmes passions qui les animent.
Je m'appelle Mathilda, je suis tatoueuse depuis 13 ans dans la région. Et tout particulièrement dans un village qui s'appelle Le Bossé, dans le Var.
Vous avez un style particulier, non ? Vous pouvez le définir un peu et en parler ?
Mon style de prédilection, en fait, c'est l'hyper-réalisme couleur. Donc le but est de reproduire une photo le plus possible, avec des couleurs extrêmement flashy, sans tracé, etc. Il faut vraiment que ce soit un résultat d'une photo.
Est-ce que les personnes viennent avec la photo ?
Alors souvent, on m'emmène des photos puisque je suis quand même spécialisée dans le portrait. Donc je reçois beaucoup de personnes qui veulent rendre hommage à des êtres partis trop tôt, etc. Donc on fait une reproduction de photos. Ou sinon, les personnes viennent avec leurs idées et donc je dessine ou je reproduis des photos en faisant des montages numériques.
Est-ce qu'il y a une technique particulière et une difficulté particulière par rapport aux autres tatouages ?
Alors, l'hyperréalisme est extrêmement compliqué, délicat. Il faut savoir qu'il y a extrêmement de mélanges de couleurs très, très particuliers. C'est, on va dire, un double effort pour tatouer, bien évidemment. Sachant qu'en plus de ça, il y a des personnes qui ont une peau moins correcte que d'autres. Et donner un résultat assez satisfaisant, des fois, c'est compliqué. Donc il faut s'acclimater à tout type de peau.
Mais vous êtes capable de faire d'autres tatouages ou vraiment, une fois qu'on se spécialise, on ne touche plus à d'autres techniques ?
Alors quand on arrive à créer de l'hyper-réalisme couleur, dans la logique des choses, avant on a touché à tout, on va dire qu'on arrive à contrôler un peu tout, on va dire, à ce niveau-là.
Comment se passe la relation avec le client qui vient ? C'est souvent des personnes qui ont peut-être pas encore fait un tatouage, vous avez une manière de leur parler, de les rassurer, de leur expliquer. Ils sont un peu obsédés aussi par l'image, la restitution exacte.
J'essaye d'instaurer une relation de confiance avec mon client, parce que c'est pas anodin. Donc je suis à l'écoute, j'essaye de les mettre en confiance, de leur expliquer le déroulement du tatouage, les douleurs, etc., les risques qu'il peut y avoir. Et j'essaye de rentrer le plus profondément possible dans leur projet, pourquoi cet endroit-là, qu'est-ce qui se cache derrière, etc., pour leur donner le meilleur rendu possible.
Qu'est-ce que vous êtes en train de finir, vous avez fini là ?
Alors là, on est parti donc avec ma cliente qui n'a jamais eu de tatouage d'ailleurs. On est en train de faire une jambe complète sur le thème d'un renard qui représente beaucoup sa grand-mère. Voilà. On est sur un thème floral, un thème nature, forêt, etc., animalier.
Donc elle s'est carrément lancée dans une grande fresque pour la première fois de sa vie, quoi.
Elle a un minuscule tatouage derrière la cheville, tout petit, qui a duré 5 minutes. Et puis elle s'est sentie en confiance et elle m'a dit « Ok, on fait la jambe complète ».
C'est rare, non, ce genre de client ?
C'est assez rare, c'est assez osé. Mais en même temps, c'est super parce qu'elle a sauté le pas et on a déjà gagné un prix hier pour la première partie. Donc,
un prix de quoi ? Vous pouvez m'en parler ?
Bien sûr, on a gagné la deuxième place de petite et moyenne pièce en réalisme. Et aujourd'hui, du coup, ça nous motive encore plus pour, partir à la conquête éventuellement de la grande pièce réaliste du jour. Je reçois régulièrement malheureusement des mamans ou des parents qui perdent leur enfant de maladie. Donc c'est extrêmement difficile pour moi émotionnellement et côté technique, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur, encore moins que d'habitude. Parce qu'on a quand même une énorme charge sur le dos, une responsabilité. Je ne fais jamais payer ce genre de tatouage d'ailleurs. Je demande juste s'ils veulent me porter des chocolats ou une étrenne pour mes enfants. Parce que je ne veux absolument pas profiter du malheur des gens pour m'enrichir. J'ai assez de clients à côté pour pouvoir gagner ma vie. Donc c'est ces gens-là qui me touchent quand ils retrouvent quelque part leurs enfants en photo, mais cette fois-ci ils partiront plus, quoi.
Le jury, c'est bon. Vous avez montré. Tu peux montrer ton cul. Voilà. Le moment, vous attendez tous, du bruit pour son cul. Mais oui. Parce que vous faites les malins, mais qui oserait montrer son. Oui, d'accord, tout le monde. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Alors, j'appelle Naïs, Julie, Alice, Oriabel et Jade. Je te laisse te présenter.
Je m'appelle Naïs et je viens de près d'Avignon.
Le projet, combien d'heures ?
12 heures.
12 heures.
Bonjour, je m'appelle Julie, je viens de Menton et 16 heures de travail.
16 heures, respect, hein, il vous est déjà acquis, hein, sachez-le. Rebonjour.
Bonjour, moi je suis Alice, je viens de Nice. Et là on est sur du 13-14 heures de travail du coup.
13-14 heures. Bonjour, ça va bien ?
Bonjour, Oriabel, je viens de Toulon, 18 heures de travail.
18 heures, waouh.
Bonjour, Jade, Marseille, et on a fait 11 heures de travail, je crois.
Vous êtes des grandes malades, mesdames, hein, mais respect total, respect total. Le jury, donc, va... Attends, ne bouge pas, prends pas confiance. Je te sens comme... En pourcentage, il y a plus de dames tatouées que de messieurs. Ça se joue à pas beaucoup, mais vous êtes plus à être tatoué que ces messieurs. Je pense que vous êtes plus courageuse. C'est la conclusion que j'en tire. On est d'accord.
On est beaucoup plus courageuse parce qu'on enfante, on met au monde des enfants, donc qui peut faire mieux que nous ?
Le 9 janvier 1942, au large des Baléares, le paquebot La Mauricière de la Compagnie Générale Transatlantique a coulé. Bilan, 300 morts et 95 rescapés. Proportionnellement, une catastrophe pire que celle du Titanic. Rencontre avec des petits-enfants de personnes ayant été touchées par ces tragédies maritimes. Vous écouterez aussi le témoignage unique d'un rescapé, Xavier Montagioni. Isabelle Cardin et Sébastien Giraud, bonjour.
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 On va parler aujourd'hui du naufrage du La Mauricière, le 9 janvier 1942. Alors je vais d'abord donner quelques chiffres pour nos auditeurs, des chiffres et données sur ce paquebot et sur cet événement. Donc ce paquebot a été mis en service en 1921. Il assurait la ligne Marseille vers l'Afrique du Nord. Il mesurait 112 mètres de long. Le jour du naufrage, il y avait 395 passagers, dont 132 membres d'équipage. majoritairement des hommes. Il y avait 88 militaires, dont 24 rescapés, 43 femmes, 7 rescapés, 28 jeunes de 0 à 17 ans, 4 rescapés. En tout, après le naufrage, il va rester 95 rescapés. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, comment vous êtes rattaché à cette histoire tragique, Sébastien Giraud?
En ce qui me concerne, je suis le petit-fils d'un des rescapés de ce naufrage. On aura l'occasion d'en parler, mais je pense que l'élément majeur à avoir en tête, c'est que si j'ai cette capacité aujourd'hui à vous parler, c'est tout simplement lié à ce naufrage, puisque en fait, la petite histoire dans la grande histoire veut que mon grand-père rencontre ma grand-mère suite au naufrage pour lui témoigner à la famille en fait de ce qui s'était passé. Donc si aujourd'hui je suis présent, c'est parce que le naufrage est arrivé et que il n'y a pas eu que finalement des victimes dans ce naufrage, il y a aussi des histoires qui se sont créées.
Et vous, Isabelle Cardin ?
Moi, je suis la petite fille d'un des militaires passagers.
Qui s'appelait ?
Qui s'appelait Pierre Cardin, et qui n'a aucun rapport avec le couturier. Et en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser au naufrage. En fait, on m'en parlait pas du tout quand j'étais petite. Mon père avait 5 ans quand son propre père a disparu dans le naufrage, donc lui n'en avait aucun souvenir. Et ma grand-mère a commencé à m'en parler quand j'étais au début de l'adolescence, donc vers 13-14 ans. Et malheureusement, elle est décédée quand j'avais 15 ans, ce qui fait qu'au final, il n'y avait plus personne pour pouvoir m'en parler. Donc je me suis lancée dans des recherches pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, parce que ça restait très flou. Et voilà, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée porte-parole de toutes les familles. Mais c'est pareil, je pense qu'on va pouvoir développer ça dans un second temps.
Alors Pierre Cardin, il avait 28 ans quand il est décédé. Alors est-ce qu'on peut raconter un peu son parcours de vie ?
Déjà, il est le fils de Victor Cardin, qui lui est né à Saint-Malo. Il passe de la Bretagne au port de Toulon, vu que c'est le plus grand port militaire de France. Pierre est le fils aîné de Victor, et lui aussi va tenter une carrière dans l'armée. Mais par contre, il s'engage dans l'armée de terre. Il épouse ma grand-mère et ils vont avoir 3 enfants très rapidement. Hein. Le premier né en 35, le deuxième en 37 et la troisième en 39. Et donc en 42, le naufrage arrive et voilà. Et ma grand-mère se retrouve veuve avec 3 jeunes enfants.
Ils vivaient où ?
À Toulon.
Et vous, Sébastien Giraud, votre grand-père, donc Xavier Montagioni, il était, si je ne me trompe pas, novice sur ce paquebot de la Mauricie.
Oui, tout à fait. Il était novice de passerelle, les novices entre 16 et 18 ans. Hein. Il venait de rentrer à la compagnie transatlantique quelques mois auparavant, puisqu'il avait, il était rentré, je crois, en mai 1941. Il était attaché donc à différentes missions sur la passerelle et accompagnait souvent le commandant sur ses différentes décisions. Toujours, encore une fois, les petites anecdotes qui alimentent en fait cette histoire-là. Le papa de mon grand-père ne souhaitait pas qu'il devienne marin. Donc sa carrière a commencé par une falsification de signature qui lui a permis après, en usant, on va dire, de réseaux et de connaissances pour pouvoir faire valider sa signature, il a pu donc embarquer en mai 1941 comme novice, alors même que personne dans sa famille ne souhaitait qu'il le soit.
Il habitait à Marseille ?
Il habitait à Marseille, dans le quartier du Panier. Né en Corse, c'est un élément important. Montagioni, en fait, ils étaient venus s'installer ici, même si ses parents ne vivaient plus ensemble. Il était installé dans le quartier du Panier. Il y a une petite histoire, on pourra revenir aussi, qui s'est déroulée en 1943 par la suite, qui est assez intéressante et qui vient alimenter en fait aussi cette histoire aussi du Lamouricière.
Quel a été l'impact du naufrage sur votre famille ?
Moi, ma grand-mère a attendu que je sois en âge de comprendre pour m'en parler. Je me souviens lui avoir demandé ce qui s'était réellement passé, pourquoi le bateau avait coulé. Et en fait, elle n'avait pas vraiment les réponses. C'est-à-dire qu'il restait un flou sur le pourquoi de ce bateau avait coulé. Je pense que, vu qu'on est en pleine Deuxième Guerre mondiale, la communication n'était pas optimale. Et que, en plus, comme ils étaient à Toulon et pas à Marseille, mine de rien, l'information, elle voyageait pas très bien. En revanche, quand j'étais petite, vraiment, ce qui m'avait marqué, c'était elle m'avait raconté que elle avait mis énormément de temps à accepter le décès de mon grand-père, et que pendant des années, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui tapait à sa porte, elle se disait « c'est lui qui revient ». Elle vivait dans cette espèce d'illusion que peut-être il avait réchappé du naufrage, mais que peut-être qu'il avait perdu la mémoire, peut-être que justement parce que c'était la guerre, il n'avait pas pu rejoindre Toulon dans les temps, parce qu'on sait que tout était compliqué de toute façon en cette période. Et donc voilà, elle a longtemps espéré son retour. Elle a fini par se remarier tardivement, hein, dans les années 50. Et les enfants qu'elle a eus avec son second mari, elle les a eus hors mariage. Ils se sont mariés après. Moi, je vois dans ça le fait que même si elle essayait de reprendre une vie normale avec un nouveau mari et tout ça, le fait de perdre ce nom de Cardin et de devoir se détacher de son premier mari, je pense que c'était quelque chose qui n'était pas facile pour elle. En revanche, quand j'étais petite, effectivement, je savais que l'homme que j'appelais papy n'était pas mon vrai grand-père, mais c'est pareil. La première fois que j'ai vu une photo de mon grand-père, de mon vrai grand-père, c'était une photo de lui à cheval, habillé en militaire. Comme il était sur le cheval, forcément, la tête était grosse, elle faisait 1 cm, donc en fait, je voyais même pas bien ses traits. Et c'est la seule photo qu'on m'ait jamais montrée de mon grand-père quand j'étais petite. Et ce n'est que à partir du moment où, en tant qu'adulte, j'ai commencé à faire des recherches sur le Lamoricière et que mon père a sorti d'un tiroir des photos la photo de mariage de mon grand-père et de ma grand-mère, des photos donc de mon grand-père avec son premier enfant dans les bras, enfin des choses que je n'avais jamais vues tant que ma grand-mère était en vie. J'ai tout découvert extrêmement tardivement, en fait. Chez moi, il n'y a pas eu du tout de transmission, hormis ce moment quand j'avais 13-14 ans, où ma grand-mère m'en a un petit peu parlé. Mais c'était un blackout total, ce qui explique aussi mon besoin, moi, de savoir ce qui s'était passé et de mener l'enquête.
Mais votre père, lui, il s'est tu, comment il a encaissé cette histoire?
Mon père, en fait, il dit « je n'ai aucun souvenir de mon père ». En fait, la seule chose dont il se souvient, c'est que quand son père se mettait en colère, il paraît qu'il avait les yeux qui changeaient de couleur. Que c'était quelqu'un qui avait les yeux bleus et que quand il se mettait en colère, les yeux viraient au gris de façon orageuse. Voilà, c'est le seul souvenir qu'il a de son père. Il se souvient de bombardements à Toulon où ils se sont mis à l'abri. Après, en fait, comme Toulon est un port militaire, en fait, la famille a été déplacée et mise à l'abri parce qu'on craignait que Toulon soit entièrement détruite sous les bombardements. Il se souvient de choses comme ça, de la guerre, mais de la disparition de son père ou de son père, il ne se souvient de rien.
Je me suis accroché à un radeau, on était 9 accrochés aux guirlandes des radeaux. Bon, on attendait, on lâchait le radeau parce qu'on avait des vagues de 10 mètres de haut. Quand, dans les tourbillons des vagues, on était obligé de se lâcher et de reprendre le radeau, parce que sinon on était... Le Chanzy est arrivé vers nous. Au lieu de se diriger sur les simples naufragés, il se dirigeait sur les où il y avait le plus à pouvoir à récupérer. Et je me suis retrouvé agrippé à un cordage, mais le cordage me glissait des mains, le bout me glissait des mains, je n'arrivais pas à le tenir. J'étais frigorifié. Alors, je me suis lâché, j'ai lâché, puis j'ai glissé le long du bord, le long de la coque, mais j'avais peur d'arriver à passer sous les hélices, comme j'ai vu pas mal. C'était les hélices qui ne pouvaient pas stopper, le chantier ne pouvait pas stopper. Ou ils battaient en arrière pour étaler à la lame, ou ils partaient en avant pour... On aurait dit des gens qui est passé sous les hélices et qui étaient à la moulinette, hein, disons. Et j'ai réussi à m'accrocher à une échelle de pilote. Là, je me suis cramponné avec les deux bras. Et comme j'avais une chevelure assez importante à l'époque, j'ai été agrippé par les cheveux. Et celui qui m'a agrippé par les cheveux n'était autre qu'un cousin à moi qui était matelot sur le Chanzy, qui s'appelait Antoine Cuilichi.
Maître Frédéric Monneret, un des ténors du barreau de Marseille depuis plus de 50 ans, évoquait dans l'émission sa très longue carrière. 600 dossiers d'assises, une cinquantaine d'acquittements. Il est aussi connu pour avoir défendu des figures légendaires du grand banditisme marseillais. Comment vous envisagez la défense d'une personne ? Est-ce que vous avez des lignes directrices, une manière particulière d'aborder l'affaire ? Vous avez une méthode ?
Chaque dossier en soi est différent. Un dossier, c'est d'abord l'histoire d'un homme et que l'histoire de chaque homme mérite effectivement qu'on s'y intéresse par son côté singulier, spécifique. Alors moi, pour aborder un dossier, je vais d'abord voir le client qui me désigne en détention pour se présenter, pour le connaître et surtout pour qu'il me donne sa vision du dossier. Je prends des notes.
Est-ce que vous le laissez beaucoup parler ou c'est vous qui parlez beaucoup ?
La première fois où je le vois, c'est lui qui parle parce que c'est son histoire, c'est son dossier. Et la première fois où je vais le voir, hormis la lecture d'un acte d'accusation ou d'un procès-verbal de synthèse pour avoir une idée du dossier qui le concerne, je n'ai pas du tout la connaissance du dossier. Donc je le laisse s'exprimer, je le laisse parler, je prends des notes. Ensuite, je demande bien entendu la copie du dossier. À ce moment-là, j'étudie son dossier. Et une fois que j'ai étudié son dossier, je confronte la position de défense qui est la sienne avec la réalité procédurale du dossier. Et c'est une fois que j'ai terminé ce travail que je lui rends à nouveau visite en maison d'arrêt et que je lui explique, selon l'analyse et l'étude du dossier à laquelle j'ai procédé, ce qui va ou ce qui ne va pas par rapport aux éléments objectifs d'un dossier dans le récit qu'il m'a donné et on essaie de travailler ensemble effectivement sur cette procédure.
Mais vous tentez de savoir d'emblée la vérité avec un grand V en confrontant la position de la police et sa version ou bien sa vérité compte autant que la vérité judiciaire ?
Pour moi, la vérité d'un client compte toujours, puisque de toute façon, moi, quand je suis désigné avec un mandat et que le client, donc, me demande d'être son porte-parole pour développer efficacement et du mieux son système de défense. Après, j'ai un devoir de conseil. C'est sûr que si un dossier est accablant pour un client au niveau des éléments de preuve qui ont été recueillis, à ce moment-là, mon devoir, c'est de lui expliquer quels sont les éléments qui posent difficulté et qui font que si il continue à avoir le même système de défense, il risque d'aller droit dans le mur. Mais quand j'étudie les éléments qui me sont proposés par un dossier au niveau policier, j'ai toujours du recul parce que moi, je pense que pour juger quelqu'un, la principale qualité d'un juge et aussi d'un avocat pour apprécier un élément de preuve, c'est de douter et de toujours douter et de redouter pour pouvoir justement arriver à passer au crible de la raison ces éléments de preuve. J'ai vu certains dossiers où il y avait tous les éléments qui accablaient un client et du reste, ce client fut condamné en première instance. À l'époque, il n'y avait pas la procédure d'appel. Et puis, quelques années après, grâce aux éléments d'enquête qu'on avait pu recueillir, construire une requête en révision de procès et obtenir la révision de ce procès. Et finalement, tout ce qui était apparu comme étant des éléments tangibles, incontournables, c'était des éléments qui ne tenaient pas à l'analyse. Ce dossier auquel je fais allusion, c'est le dossier Rida Dalouche, qui est un dossier très marquant, puisqu'il est un des rares personnages à avoir obtenu la révision de son procès. Voilà un garçon qui, au moment où il est interpellé, est un toxicomane, invétéré, à l'esprit embrumé par la drogue. Quand on l'interroge, on lui demande un alibi. Il donne un alibi qui s'avère inexact. La machine judiciaire se met en route. Il est identifié formellement par un témoin comme étant l'auteur de l'assassinat. Il est condamné. Et puis ce garçon a toujours clamé son innocence. Il y avait tout contre lui. Il avait un mauvais profil. Il avait un physique ingrat. Il était en situation pratiquement irrégulière. Tout l'accablait. Je ne peux pas dire que les gens qui l'ont jugé finalement l'ont jugé de manière scandaleuse, puisque si on prend le dossier avec tous ces éléments-là, on se rend compte que si on coche plusieurs cases, les éléments qu'on peut noter vont dans le sens de la culpabilité. Et ce garçon pleurait après le procès dans mes bras en me disant « Mais je vous jure que je suis innocent ». Je ne savais pas comment, effectivement, le rassurer, le consoler. Donc, je lui dis, et c'est un peu la phrase passe-partout des avocats lorsqu'ils n'ont plus grand-chose à dire, je dis à ce client, on va faire un recours en grâce avec des éléments de personnalité, mais j'ai besoin de pièces de personnalité. Après qu'il fut condamné, il avait été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Un beau jour, je vois arriver sa sœur dans mon bureau qui m'amène une liasse de pièces. Et parmi ces pièces, il y avait une pièce qui était un bulletin médico-hospitalier qui tendait à démontrer qu'il était à l'hôpital Édouard Toulouse au moment des faits. Réflexe et vice d'avocat pénaliste, au départ, je crois que c'est peut-être une pièce qui est fausse. Donc je prends attache avec le secrétariat d'Édouard Toulouse. Édouard Toulouse me dit « on va vérifier » et 2 heures après, il y a une dame qui m'appelle à mon bureau en disant « on a vérifié, d'après nos registres, il était bien à l'hôpital ». Et c'est sur cette pièce qu'on a bâti effectivement un recours en révision. On s'est rendu compte que voilà un garçon qui était innocent, qui sous le coup de l'émotion, quand on l'accusait d'un crime, s'est inventé un alibi totalement inexact. Et que comme il était toxicomane, son véritable alibi, il l'avait oublié. Il y avait un seul élément qui, dans le dossier, permettait donc de faire allusion à cette pièce médicale, c'est qu'à l'enquêteur de personnalité, et ça n'avait pas été fouillé, il avait indiqué « pendant 3 jours, je suis resté hospitalisé chez les fous ». Et donc, à partir de ce moment-là, recours en révision, la chambre... Des recours en révision ordonnent une enquête. L'enquête est faite. Il s'est avéré, en prenant le registre de ronde de nuit, qu'il était bien au moment des faits dans sa chambre, avec l'impossibilité de sortir. Le procès, donc, dans un premier temps, a débouché sur une suspension de sa condamnation. Il a été rejugé à Montpellier. La cour d'assises de Montpellier l'a acquitté. Mais ça m'a démontré que... Il ne faut jamais être sûr de rien quand on est avocat, et peut-être encore moins quand on est juge, parce que ce qui fait l'art d'un grand juge, c'est de savoir douter et de cultiver le doute.
Qu'est-ce qu'il est devenu, Rida Dalouche, aujourd'hui ?
J'ai plus de nouvelles de Rida Dalouche. J'ai eu l'occasion de le voir quelques années après son procès, puisqu'on avait participé ensemble à une émission de télévision, parce que, comble de l'ironie et tristesse pour lui... Il avait demandé à ce qu'il soit indemnisé par rapport à sa détention. Mais comme il y avait à l'époque un article du Code qui disait que lorsque quelqu'un avait contribué à sa perte en donnant des éléments erronés qui ont pu tromper la justice dans son jugement, il n'y avait pas lieu à indemnisation. Donc l'indemnisation avait été rejetée. Et c'est vrai que la presse avait été quand même un peu scandalisée par rapport à cette décision de justice. Et c'est Christophe de Chavannes qui, je crois, dans l'émission qui s'appelait à l'époque « Ciel Montmardi », avait organisé un sujet sur Rida Dalouche. Et donc, à cette occasion, je l'avais revu et on avait passé un moment ensemble. Et ensuite, on s'était retrouvés sur le plateau de télévision. Alors depuis, il y a plusieurs chaînes de télévision et journalistes qui ont voulu faire des sujets sur lui. Mais ce garçon a toujours refusé maintenant de participer à ces sujets. Il mène une vie tranquille, je crois. Et pour lui, ça a été tellement traumatisant qu'il ne veut plus en reparler.
Et pour finir ce best-of 2025 de l'émission Voix marseillaise, je vous propose d'aller du côté du 4e arrondissement de Marseille, au sein de la maison de retraite Les Jardins d'Haïti. Ici, depuis quelques années déjà, on favorise la rencontre des générations. Ainsi, Élise, jeune femme de 22 ans, moyennant quelques heures d'animation par semaine auprès des résidents, notamment des groupes de parole, est hébergé gratuitement. J'ai posé mon micro lors d'une de ces rencontres.
J'aimerais bien retourner dans mon petit HLM.
Toi, Antoinette, ce que tu penses actuellement, c'est que tu aimerais retourner dans ton HLM, c'est ça ?
Parce que c'était mon petit dada. Il était joli, mon petit Achille. Puis à la famille, je peux rester en contact avec mes sœurs. J'en ai deux. Il n'y en a que deux, hein. Les autres, elles sont décédées.
Il y avait une belle décoration ?
Oui, c'est moi qui avais tout décoré. Il y avait la chambre à coucher, il y avait des trucs que j'avais décorés moi-même. Mais ici, je suis très bien, parce que c'est pas pareil que quand j'étais dans le petit HLM.
Qu'est-ce qui te fait se sentir bien ?
Les personnes avec lesquelles on discute, avec lesquelles on peut continuer à se rappeler ce qu'on faisait.
Et comme qui, par exemple, ici, avec qui tu aimes bien échanger
Avec le directeur, surtout avec Laurent, avec Laurence, avec Corinne.
Ma décision dans la vie, c'était celle que ma mère m'imprimait, parce que mon père, qui était militaire, n'était pas souvent à la maison, avec un comportement qui était désagréable quelque part, homme-femme, enfin de couple. Mon univers, c'était autour de ma mère. J'aimais qu'elle soit heureuse dans ce que je lui apporte. Et j'ai toujours œuvré pour lui faire des choses qui lui permettaient d'être heureuse. Parce que d'un côté, elle n'était pas très heureuse, donc elle est venue vers moi pour obtenir une vie plus agréable. Voilà. Elle avait 4 enfants, moi, ma mère. Hein. Quand j'ai été propulsé par mon fils, un de mes fils, le second qui a vécu, l'aîné Jérôme, c'était le prénom du premier, si je puis dire, est décédé parce que il a fait des études supérieures, il a fait polytechnique, il s'est mis en situation personnelle, ça a été catastrophique parce qu'il était bipolaire. Et la bipolarité, c'est moi, je fais ce que je veux, etc. Enfin, si vous avez eu l'occasion de connaître cette situation, moi, j'ai pas pu le prendre en charge pour essayer de corriger cette bipolarité.
C'était difficile pour toi ?
Oui, il me dominait. J'ai fait des études supérieures.
Est-ce que ça te gêne ?
Ça gêne, parce que ma mère m'a éduqué à apprécier et aider le groupe familial. Ce que je faisais faire et qui me faisait du bien, c'était de faire du bien à d'autres personnes. Comment je suis arrivé ici ? J'étais descendu avec mon épouse depuis Nantes. On descendait vers le sud parce que j'avais vécu avec mes parents dans le sud de la France. Et j'aimais le sud de la France, en bordure de la Méditerranée, où j'étais un bon nageur, j'avais appris à nager, etc. J'ai décidé de construire une maison familiale, alors là, avec notre couple, avec mon épouse, qui est ici, là. C'est mon fils qui m'a conduit ici, il m'a dit, tu veux aller dans le sud de la France. L'EHPAD qui est ici, oui, il a réussi en ayant du renseignement, qu'il y avait 2 places pour personne. On m'a dit, mais votre épouse ne sera pas dans la même chambre que vous. Donc je vis ici, dans une chambre, et mon épouse dans une autre chambre. Dans le début de ma vie professionnelle, si je puis dire, j'étais professeur de haut niveau, hein, et j'ai formé des BTS pour la mécanique. Et mon épouse, que j'ai poussée, si vous voulez, à faire des diplômes de même niveau, on était dans la région parisienne. Elle a fait de la formation
bureautique.
Vous l'avez retenu. Moi, j'ai mis la tête qui... Venir ici, j'étais heureux parce que je retrouvais la Méditerranée, mais j'étais pas satisfait parce qu'il y avait un certain nombre de choses que je pouvais pas vivre dans mes possibilités.
Et moi, j'ai remarqué que tu aimais bien la musique, que tu aimais bien danser. Ici, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont proposées.
Mon épouse et moi, on était des bons des danseurs mordus de la danse de salon. À l'occasion de ses déplacements, durant des services, elle a fait des chutes. Et ça l'a marqué tellement qu'elle a dit,
je suis faite pour tomber et j'arrête, je marche plus, je me mets dans un fauteuil et elle est dans un fauteuil depuis 2-3 ans et elle n'arrive plus à marcher. Enfin, oui, elle ne marche pas parce que mentalement, elle a dit si je marche, je tombe. Marcher, c'est tomber.
Mentalement, elle a que coupé.
Oui.
Et toi, Gérard, est-ce que, par exemple, avec l'école de musique ici, ça te dirait de prendre des cours de piano, par exemple?
Oui. Oui. Vous êtes venu, vous en avez fait un petit peu, et puis vous avez fait pour votre plaisir de jouer, effectivement, et puis vous avez un peu interrompu cette attitude, et j'étais déçu parce que je comptais sur vous comme professeur, etc. Mais bon, j'en parle ici comme ça, c'est pas pour vous empêcher de faire ce que vous voulez faire, hein. Je peux imaginer, mais voilà. Mais c'est vrai, parce que ayant fait quand même un peu de piano, ayant chanté et dansé, ça, il faut que je continue à en faire, parce que c'est ma vie.
Et toi, Marianne ?
Je ne me trouve pas si mal ici, comparé à ce que j'ai vécu avant, parce que j'étais dans un EHPAD horrible, un vrai Mauroy. Donc là, ça fait à peu près un an que je suis ici. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus humain. Et en plus, je me suis rapprochée de mes enfants, de ma fille, qui habite la plaine. C'est vrai qu'il y a des moments un peu durs ici, un peu longs, un peu où on s'ennuie. Mais il y a aussi des moments où il y a des gens pour s'occuper de nous, pour nous faire des activités. Il y a quand même pas mal de trucs. Bon, ici, c'est quand même joli au point de vue architectural. Il y a un jardin, les gens sont courtois. Il y a un bon esprit, quoi, dans l'ensemble.
C'est le meilleur de Marseille.
Merci à Sidi de Radio Galère, je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve pour de prochains numéros de Voix Marseillaise l'année prochaine. Au revoir. Thank you.